Après avoir étudié toutes les preuves, j'en conclus que personne n'est impliqué dans la mort de Nora Quarin. Il est plus probable qu'elle soit morte suite à une mésaventure, qu'elle ait quitté l'hôtel d'elle-même et se soit perdue dans cette plantation de palmiers abandonnée.
Bonsoir. Qu'est-il arrivé à Nora Quarin dans la jungle malaisienne? C'était il y a quasiment 2 ans, au mois d'août 2019. Le corps de cette jeune Française de 15 ans était découvert sans vie dans une nature hostile à 2 kilomètres de l'hôtel où elle séjournait avec ses parents. L'enquête des autorités locales va très vite, trop vite, conclure à une fugue malencontreuse, à un accident. Même si cette hypothèse semblait d'entrer hors de propos, Nora, adolescente craintive et fragile, souffrait d'un handicap qui l'aurait empêché de déambuler seule au cœur de la nuit dans un paysage qui lui était totalement étranger. Ses parents vont remuer ciel et terre pour que les investigations redémarrent et se concentrent sur la piste criminelle, celle d'un enlèvement, d'une séquestration ayant conduit à la mort de leur fille. Ils viennent enfin d'obtenir gain de cause. La thèse de l'accident n'est plus la seule privilégiée par la Malaisie. C'est ce combat, le long combat d'une famille pour la vérité, son espoir que la lumière se fasse sur cette affaire. C'est cette histoire que nous allons raconter ce soir. Nous recevrons le père de Nora, Sébastien Quarin, et nous écouterons son témoignage.
L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Nora Quarin. À l'été 2019 en Malaisie, des vacances en famille pour cette jeune fille qui va soudain disparaître à la faveur d'une nuit sans lune. Ce samedi 3 août 2019, la famille Quarin débarque à Seremban, une ville de Malaisie à 60 km au sud de la capitale, Kuala Lumpur. Les Quarin, Sébastien, le père de nationalité française, Mehab, la mère irlandaise et leurs 3 enfants, arrivent de Londres où ils travaillent et vivent depuis une 20aine d'années. Ils ont prévu de séjourner 15 jours dans le pays. Ils vont loger dans une réserve naturelle à l'entrée de la jungle, au pied d'une majestueuse chaîne de collines et de montagnes, le complexe touristique de Dunsun. 7 bungalows qui accueillent toute l'année une 20aine de personnes, en majorité des randonneurs étrangers. L'endroit est sûr, aucun incident n'a jamais été signalé sur ce site protégé. Il y a même des caméras de vidéosurveillance qui filment les abords du petit complexe. Les Quarin prennent possession de leur logement. La nuit tombe, toute la famille se couche, les enfants dans une chambre, le père et la mère dans l'autre. Première nuit en Malaisie, jusqu'au lendemain matin, dimanche 4 août, 8h, avec des parents décontenancés quand ils viennent réveiller les enfants. Sébastien et Mehab Quarin découvrent avec effroi que Nora, 15 ans, leur fille aînée, n'est plus dans son lit. La fenêtre de la chambre est ouverte alors qu'elle était fermée la veille. Les parents ont un mauvais pressentiment. Ils savent pertinemment que Nora n'a jamais pu partir d'elle-même, fuguée dans l'obscurité. Elle en serait bien incapable. Leur fille souffre d'un handicap mental, une malformation mentale congénitale, l'holoprosencéphalie, qui fait d'elle une fille fragile, timide, introvertie et maladroite. Son expression orale est limitée et elle a parfois même du mal à garder son équilibre. Elle a trébuché en arrivant au bungalow alors que le sentier était pourtant dégagé. Imaginez qu'elle ait pu partir dans la nuit noire sur un sentier non éclairé n'a strictement aucun sens selon tous ceux qui la connaissent. Les parents donnent l'alerte. Avec le personnel du complexe hôtelier, ils fouillent les bungalows, examinent la piscine, arpentent la nature environnante. Pas de traces de Nora. La police arrive sur place malgré la détresse et les explications de Sébastien et Mehab Quarin. Les autorités privilégient la fugue. Elle n'évoque pas un possible geste criminel, un enlèvement. Bonsoir, monsieur Quarin.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans l'heure du crime. Vous êtes donc le papa de Nora et vous êtes en direct ce soir dans l'heure du crime. Je le disais très brièvement, monsieur Quarin, Nora n'est pas une fille, on peut dire, tout à fait comme les autres filles de son âge. Elle souffre d'un handicap, elle ne peut pas être partie comme cela sans prévenir.
Effectivement, vous avez décrit que Nora avait un handicap cérébral assez complexe. Mais pour simplifier, Nora avait un âge mental d'environ 7 ans. Mm-hmm. Elle était incapable de manier les concepts. Par exemple, 5 plus 3 n'avait aucun sens pour elle. d'un point de vue physique, son équilibre était assez précaire. Mmh. Et par rapport à la personnalité de Nora, Nora était une fille qui n'était pas téméraire. Elle n'avait jamais quitté, par exemple, le seuil de la porte de notre maison. C'était une adolescente craintive, peu curieuse, qui aimait les choses simples de la vie. Elle aimait simplement être en famille et la famille représentait absolument tout pour elle.
Alors c'est important ce que vous racontez parce que là on comprend évidemment tout de ce qui a pu se passer ou ne pas se passer. Il est impossible pour elle comme ça d'enjamber cette fenêtre et puis soudain de disparaître, Sébastien Coirin.
C'est tout simplement impossible. Pour plusieurs raisons, on a évoqué son handicap physique et mental, mais il faut aussi imaginer que Nora aurait été physiquement incapable d'ouvrir cette fenêtre dans un premier temps, sachant que c'est un élément important, cette fenêtre avait été fermée la veille par Maeve, sa mère, et Maeve avait découvert que le verrou était cassé.
Était défectueux.
Donc cette fenêtre aurait pu être ouverte depuis l'extérieur.
Ça va être dit d'ailleurs dans l'enquête. Il y aura un témoignage qui viendra plus tard. Oui. Je voudrais.
Mais un point important.
Allez-y,
si
je vous en prie. Je vous en prie.
Non seulement il faut prendre en compte le handicap de Nora, mais imaginez ce chalet qui se trouve donc dans cette réserve naturelle à flanc de montagne dans la jungle. Ce chalet est clôturé, le terrain est dangereux, il est pentu, c'est l'obscurité totale, il n'y a même pas la lune. Et Nora, si elle a été sortie, elle était dévêtue, elle n'avait que sa culotte. Il aurait été presque impossible pour un être humain normalement constitué de franchir quelques pas. Donc imaginez Nora.
Bien sûr.
C'était une absurdité totale d'imaginer que Nora aurait pu fuguer.
C'est absolument invraisemblable. Lorsque vous en parlez comme ça, on est au tout début là, de l'enquête et de ce qui vient de se passer. Lorsque vous en parlez aux autorités, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Vous avez l'impression d'être pas très compris, pas entendu?
Au début, il y avait un problème linguistique. Nous avions affaire à des officiers de police dont l'anglais était mal maîtrisé et aussi dont le handicap était très mal compris. Pour eux, Nora était une fille de 14-15 ans et donc à cet âge-là, les adolescents peuvent être rebelles. Et pour eux, il n'était pas impossible que Nora ait pu fuguer. Et au cours des 9 jours de recherche, c'était une lutte permanente envers les autorités malaisiennes pour leur expliquer que Nora était une personne différente et qu'il fallait prendre en compte le handicap dans l'enquête, et qu'il était impératif non seulement donc de mener des recherches, mais aussi d'évoquer la piste et d'étudier la piste criminelle.
Bien sûr. Et on va raconter évidemment avec vous, vous restez avec nous, Sébastien Coirin, on va raconter cette enquête. Je voudrais juste poser une question à Maître Charles Morel. Bonsoir Charles Morel.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être ce soir dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de la famille Coirin. On a le sentiment que dès le début, il ne faut pas faire de vagues. On se fixe sur cette piste de la fugue. Et puis pas autre chose.
Oui, c'est ça. Parce que lorsqu'on est sur la fugue, on est sur la responsabilité personnelle de Nora, sa décision de partir. C'est cette hypothèse, évidemment, qui est retenue au moment des fouilles, en se voulant rassurant. Parce qu'évidemment, on a aussi cette tendance à ne pas vouloir envisager le pire. Et évidemment aussi parce que c'est plus confortable pour les autorités, la police, que ce soit que l'hypothèse d'une fugue que l'hypothèse d'un crime.
Les recherches pour retrouver Nora vont s'intensifier dans une nature que seuls les autochtones connaissent parfaitement. Impossible de savoir ce qu'il est advenu de cette adolescente sans défense. Perdue, séquestrée, vivante, morte, aucune réponse. Dans les jours qui suivent la disparition de Nora, les alentours du complexe touristique de Dunsun sont passés au crible par les autorités. Les policiers utilisent un chien pour détecter une éventuelle trace. Pas moins de 160 personnes participent aux recherches, des habitants du coin qui connaissent bien la jungle, un milieu hostile dans lequel un étranger perdu ne peut pas survivre très longtemps. Des chamans locaux, les Bomo, des prêtres chargés des rituels religieux en Malaisie, offrent également leur aide. Des plongeurs sondent des points d'eau, un drone militaire et un hélicoptère sont mobilisés pour survoler la région sans résultat probant. La famille de Nora offre 50 000 ringgit malaisiens, un peu plus de 10 000 euros, pour toute information permettant de localiser la disparue. Des appels enregistrés par la mère de Nora sont diffusés par haut-parleurs dans la forêt avec l'espoir que l'adolescente, qui est peut-être terrée dans un coin et apeurée, sorte de sa cachette. Mais c'est le silence qui répond à la voix de cette maman. 6 jours après la disparition, le parquet de Paris ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration. Seul moyen d'accéder à ce dossier qui concerne une jeune fille qui a la nationalité française. 13 août 2019, après 10 jours d'incessantes recherches, le chef adjoint de la police malaisienne, Mazlan Mansor, annonce qu'un corps a été retrouvé à 2,5 km du complexe hôtelier. Au fond d'un ravin, dans un petit ruisseau, près des chutes de Berembun, un lieu que les secouristes et enquêteurs avaient pourtant sillonné de long en large. Il s'agit bien de Nora Coirin. Le corps est entièrement dénudée. Sa culotte qu'elle avait gardée pour dormir dans le bungalow alors qu'il faisait très chaud est introuvable. L'autopsie conduite en Malaisie ne détecte pas de traces de coups ou de violence. Juste quelques égratignures superficielles, aucune agression sexuelle n'est alors constatée. Le médecin légiste indique que l'adolescente est décédée des suites d'une hémorragie interne en raison notamment du manque de nourriture et du stress. Le chef de la police, Mohamed Mat Youssop, affirme à son tour, il n'y a aucun soupçon d'acte criminel. Les parents peuvent récupérer le corps. Des parents incrédules, comment imaginer que leur fille, après avoir cheminé pieds nus et presque totalement dévêtue sur un sentier difficile et dangereux, ne porte aucune marque, aucune plaie, aucune piqûre de moustique et même pas le moindre coup de soleil? Sébastien Coirin, vous êtes ce soir en ligne dans l'heure du crime, vous êtes le papa de Nora, je le rappelle. Je viens de l'indiquer, je pense que cette autopsie, finalement, il faut la lire à l'envers, il faut la lire en creux pour comprendre ce qui ne va pas. Et il n'y a aucune trace visible sur le corps de Nora, ça veut dire quoi? Elle n'a pas pu séjourner aussi longtemps à l'extérieur, c'est pas possible.
Alors, les causes de la mort de Nora sont indiscutables. Vous l'avez évoqué, il s'agit d'une hémorragie interne provoquée par la peur et la faim.
Et le stress, oui, c'est ça.
Et le stress. Son corps était légèrement égratigné, mais incompatible avec une errance de 7 jours dans la jungle. À ce titre, lorsque nous avons dû faire l'identification du corps, nous avons pu apercevoir ses pieds et j'étais interpellé par les quelques égratignures sur ses voûtes plantaires, totalement, encore une fois, incompatibles avec
une longue marche.
Une longue marche de 7 jours sur un terrain extrêmement rocailleux et dangereux.
Ça veut dire quoi, Monsieur Coirin, selon vous? On peut imaginer qu'elle a été séquestrée, votre fille, tout simplement, et qu'ensuite, peut-être, elle a été emmenée là, alors qu'elle était déjà morte. Pourquoi pas? C'est possible.
C'est une hypothèse qui nous semble plausible. Comme nous l'avions évoqué, l'hypothèse de la fugue est tout simplement incompatible.
Est exclue, bien sûr.
Est exclue. Par contre, effectivement, nous avions retrouvé, c'est un élément important, cette fenêtre ouverte dès que nous avions lancé l'alerte. Cette fenêtre, elle ne s'est pas ouverte toute seule.
Bien sûr.
Autre point, et c'est ce qui a été évoqué ensuite dans le verdict final, c'est que le juge a expliqué que les équipes de recherche se sont rendues à plusieurs reprises, dont le 6e jour, à l'endroit où Nora a été retrouvée. On sait très bien qu'au 6e jour, si Nora était là, elle aurait été impossible. Elle aurait été bien trop affaiblie pour... Et l'argument d'une mobilité permanente invoquée par les forces de police, d'où pour justifier leur échec, ne tient plus debout.
Oui, là, on est déjà dans les failles de cette enquête qui n'en manque pas. Encore un petit point, Monsieur Coirin, est-ce que on sait, selon l'autopsie, la date exacte du décès de Nora ou pas du tout? Ça reste encore flou.
On connaît la date du décès à environ 24 heures. Donc on sait que lorsque son corps a été retrouvé, Nora était morte environ 3 jours avant. Et donc on sait que lorsque ces équipes de recherche se sont rendues le 6e jour, C'était environ un jour avant sa morte.
Un jour avant sa mort. C'est important parce que ça conditionne aussi un scénario qui peut apparaître et qui va pouvoir s'affiner peut-être au fil de cette enquête.
Maître Charles. Il y a aussi un autre point aussi qui reste mystérieux, c'est que nous avons découvert, lorsque nous nous sommes rendus sur les lieux, un campement rudimentaire à quelques encablures de là où le corps de Nora a été retrouvé.
Ah, ça, c'est important.
Et à ce jour, nous n'avons toujours aucune explication sur ce campement.
On vous a donné aucune explication. Hein.
On sait que les forces de police françaises qui avaient été dépêchées sur les lieux avaient demandé à ce que des prises d'ADN soient faites. Mais à ce jour, nous n'avons eu aucune réponse.
Il n'y a pas de résultat. Alors, Maître Charles Morel, vous êtes l'avocat de la famille Coirin. Justement, Sébastien Coirin parle des policiers français qui se sont déplacés. Je le disais, il y a une enquête ouverte en France, mais c'est normal, c'est une ressortissante française, donc automatiquement...
Automatiquement,
il faut le demander.
Nous l'avons demandé, et nous avons fait en sorte que les choses aillent très vite. Ça a été le cas. Dans un premier temps, les autorités françaises ont réagi avec beaucoup de diligence. Il y a pu y avoir donc deux enquêteurs qui se sont rendus sur place, qui ont pu assister à l'autopsie, ce qui était très important pour nous de garantir l'intégrité et la qualité de l'autopsie, puisqu'évidemment, pour déterminer les causes de la mort, c'est absolument essentiel. Et ensuite, il y a eu une enquête miroir, et là, on peut dire que les autorités françaises, l'enquête, pour l'instant, nous n'en avons pas grand-chose, parce qu'il devait y avoir une enquête de personnalité, d'environnement, et notamment sur la personnalité
de Nora.
Et
un échange des dossiers, c'est ça?
Oui, il y a une coopération, mais voilà, qui se passe avec la Malaisie, avec la voie diplomatique, donc ça peut être très long, et puis ensuite entre parquets, mais il y a aussi une voie diplomatique avec l'Angleterre, et malheureusement, nous n'avons pas eu le retour de cette enquête, mais malgré tout, le principal de l'école de Nora a été entendu, et il a donné des explications très importantes sur la personnalité de Nora, et qui a servi à la décision favorable, enfin, de verdict ouvert qui vient d'être rendu par la haute cour de Seremban.
Juste un mot, on est toujours dans le cadre d'une enquête où il y a une information judiciaire ouverte ou...
Il n'y a pas de classement sans suite, mais si vous voulez, vous comprenez bien que l'enquête miroir menée en France ne permettra pas de savoir. Donc ce qui compte, c'est ce qui va se passer encore pour la suite, maintenant qu'il y a eu ce verdict ouvert, en Malaisie.
Le 10 septembre 2019, les obsèques de Nora sont célébrées dans la plus stricte intimité à la paroisse Sainte-Brigitte à Belfast, là où elle avait été baptisée. Les cendres de l'adolescente sont déposées au cimetière de Milltown. Personne alors ne sait comment elle est morte. Après la disparition de Nora, la police locale a relevé tardivement plusieurs empreintes de doigts sur les montants de la fenêtre de la chambre où dormait l'adolescente. Il est alors prévu que ces empreintes soient comparées à celles d'une vingtaine de personnes, essentiellement des employés de l'hôtel, recherche vaine. La vidéosurveillance des bâtiments ne donne pas d'indices, les caméras de portée limitée ne semblent n'avoir rien filmé de suspect. Certains villageois indiquent avoir entendu un bruit de moteur, un camion, tôt le matin du dimanche 4 août, mais ces témoignages se révèlent trop flous ou invérifiables. Après 5 mois d'investigation jugée stérile, les autorités décident de classer sans suite le dossier. Elle conclut que Nora a fugué et s'est perdue dans la jungle. À aucun moment, le handicap mental de la jeune victime, elle était incapable de s'éloigner volontairement des siens. Ce handicap n'est pris en cause par les enquêteurs. Les parents protestent. Ils affirment que Nora a sûrement été enlevée. Ils ne vont cesser de s'agiter pour se faire entendre. Ils ont pour cela l'appui d'une fondation britannique d'aide aux victimes, The Lucy Blackman Trust, et de 2 députés français qui alertent l'opinion. 24 août 2020, les parents de Nora obtiennent gain de cause. La Malaisie accepte la réouverture de l'enquête. Ils vont peut-être avoir des réponses aux questions qu'ils ne cessent de se poser. Comment se fait-il que les enquêteurs aient découvert le corps à un endroit déjà fouillé dans les jours précédents, une plantation d'huile de palme abandonnée? Nora était-elle encore vivante quand les secours sont passés dans ce secteur? Puisque le corps de l'adolescente ne porte aucune trace suspecte, cela signifie-t-elle qu'elle a été séquestrée dans une maison et abandonnée ensuite dans la nature? Les investigations progressent, à pas compter. Les auditions judiciaires, le plus souvent en visioconférence à cause de la crise sanitaire, se succèdent. 48 témoins interrogés, parmi eux le propriétaire du complexe hôtelier qui admet que la poignée de la fenêtre de la chambre de Nora était défectueuse et qu'on pouvait l'ouvrir facilement depuis l'extérieur. pas d'élément capital. Le 4 janvier 2021, la juge et directrice d'enquête Maïmouna Haïd rend son verdict. C'est un cruel désaveu pour la famille. La juge écarte l'implication d'un tiers dans la mort de la jeune fille. Elle conclut à ce qu'elle qualifie une mésaventure. Nora serait sortie seule, se serait perdue et aurait fini par succomber. Sébastien Coirin, vous êtes le papa de Nora et vous êtes ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime. Il y a cette enquête qui est pour le moins chaotique. Il y a tous ces errements, ces empreintes qui ne donnent rien, les caméras qui ne marchent pas, enfin, etc., etc. Racontez-nous un petit peu cet enchaînement de mauvaises nouvelles pour vous, si je puis dire.
Tout à fait. Si je me permets de revenir un petit peu en arrière.
Allez-y.
Avant notre départ en Malaisie, nous avions rencontré les différents membres du gouvernement malaisien ainsi que la vice-première ministre. Il faut savoir qu'à cette époque, cette histoire faisait la une des journaux,
hein,
et il y avait une couverture mondiale. Et on nous avait promis que tout serait fait pour que la vérité soit faite et que la justice soit rendue. Sauf que, comme vous l'aviez évoqué, nous avons dû nous battre pour obtenir cette enquête judiciaire que nous avons obtenue à la troisième tentative. Et pour cela, je tiens aussi à remercier l'appui de nos diplomaties et de nos gouvernements, en particulier le gouvernement franco-irlandais. Et lorsque cette enquête a débuté, nous avons eu le sentiment que, effectivement, les choses prenaient mauvaise tournure. Premièrement, la juge qui était nommée ne semblait pas à la hauteur de l'événement. Les questions qu'elle posait n'allaient pas au fond des choses et la police, tout simplement, tenait le même discours, quelles que soient les questions posées. Néanmoins, nous avons quand même obtenu quelques informations qui étaient intéressantes. Par exemple, le fait que les zones et la zone où Nora a été retrouvée a été patrouillée à plusieurs reprises. Les auditions du principal de l'école ont été déterminantes, il nous semblait, étaient déterminantes pour prouver que la fugue était impossible.
Bien sûr.
Mais malheureusement, le verdict fut très difficile à entendre.
Alors, parlons cash, Monsieur Coirin. On a le sentiment quand même que, et on en a parlé un instant avec votre avocat, Maître Morel, qui est notre invité d'ailleurs ce soir dans l'heure du crime également, on a l'impression que les autorités, elles freinent des quatre fers pour que ça aille dans un seul sens, cette enquête, c'est-à-dire celle de la fugue.
Vous comprenez, c'est gênant pour un pays comme la Malaisie qui s'ouvre au monde et dont le tourisme est très important pour son économie. C'est gênant qu'un enfant et un adolescent aient pu être enlevés et mourir durant les vacances. À ce titre, le lendemain de la mort de Nora, le ministre du tourisme malaisien avait fait une conférence de presse pour expliquer que cette affaire ne devrait pas avoir d'impact négatif sur le tourisme malaisien.
À ce point-là,
à ce point-là, donc on était conscient que c'était une affaire qui gênait, qui était inconfortable. Et donc la thèse de la fugue, finalement, déresponsabilisait les autorités malaisiennes.
Bien sûr, ça a écarté leur responsabilité, effectivement, pour ne pas faire d'ombre à ce pays et au tourisme, qui est une ressource très importante. Maître Morel, évidemment que la thèse de la fugue, elle est absurde, elle ne tient pas, on le comprend bien, et on le comprend très vite, les rapports médicaux sont accablants, enfin. Là, c'est sûr, il n'y a pas eu de fugue, elle n'est pas partie toute seule, la petite Nora. Mais simplement, pourquoi est-ce qu'on l'aurait enlevée finalement, cet enfant ?
Alors là, on en est réduit à des hypothèses. On n'a aucune certitude. D'abord, évidemment, comme s'il s'agit d'un crime, c'est-à-dire d'un enlèvement, toutes les preuves ont été détruites, puisque pendant des jours, les personnes ont défilé, qu'on a commencé à réparer la fenêtre, beaucoup d'empreintes ont été posées extérieures sur la fenêtre. On doit essayer d'imaginer un enlèvement, le fait qu'elle ait pu être ciblée, parce que cet enlèvement n'est quand même pas anodin. Il faut rentrer dans le bungalow, il faut s'emparer de la jeune femme, et ensuite avec plusieurs personnes possiblement, on n'en sait rien. Est-ce que c'est son handicap qui tout de suite l'a fait cibler? Tout ça, nous ne le savons
parce
pas.
Parce qu'elle était fragile et que finalement c'était une proie peut-être facile, c'est ça?
Alors facile ou pour d'autres raisons, vous savez, on peut imaginer, on ne sait pas quelle est la place. Là aussi, il y a une enquête à faire dans l'imaginaire de certains groupes. On sait qu'il y a des pratiques un peu étranges. On a regardé aussi à la frontière du pays des trafics. On sait qu'il en existe partout dans le monde. C'est ce qui fait que effectivement, on cherche une vérité officielle parce que évidemment, un accident, ça arrive partout. Un crime, ça arrive quelque part. Ça a un contexte politique, social, religieux. Des pratiques, voilà. Et donc on en est réduit aujourd'hui à des hypothèses, mais peut-être qu'on va pouvoir les travailler. Il y a des personnes qui peuvent parler, d'autres qui n'ont pas été entendues, des vérifications qui peuvent encore être faites, bien sûr.
Les parents vont former un recours contre ce jugement qui arrête l'enquête devant la haute cour malaisienne. Seul moyen de faire casser cette décision. Nous continuerons à nous battre pour que l'histoire de Nora soit entendue, indique Mehab Kouarin, la mère de l'adolescente. Ce mercredi 16 juin 2021, le juge Azizoul Azmi Adnan de la haute cour de Serenbam rend son verdict dans le dossier Kouarin. Il avait été saisi par les parents de Nora pour la révision du jugement précédent qui avait conclu à une mésaventure, un malheureux accident. Le juge a lancé de nouvelles vérifications au Dunsun Resort, le complexe hôtelier où séjournait la famille franco-irlandaise, et a entendu toutes les parties. Pour la première fois, ce magistrat retient le fait que Nora avait des difficultés psychomotrices, tombées dès lors que le terrain devenait irrégulier. Il admet qu'elle n'était pas une enfant curieuse ou aventureuse. Il exclut catégoriquement la piste de la fugue, considère comme improbable le fait que Nora ait pu se déplacer pieds nus en pleine nuit sur ces sentiers escarpés. Pour le juge, cette mort n'est pas le résultat d'une mésaventure. Il annule donc le verdict précédent et laisse le verdict désormais ouvert, décision qui rend théoriquement possible la relance d'une nouvelle enquête policière. 2 ans après la mort de Nora, sa famille ne sait toujours pas ce qui est arrivé réellement à l'adolescente, même si après bien des vicissitudes, elle a pour la première fois le sentiment d'avoir été enfin entendue et surtout comprise. À la fin de son délibéré, le juge de la haute cour indiquait « Nous n'avons pas été en mesure de vous aider à trouver les réponses que vous cherchiez, mais j'espère vous avoir aidé à vous accompagner sur le long chemin de la guérison. » Le long chemin de la guérison et du deuil, Sébastien Kouarin, que vous parcourez, je suppose, toujours en ce moment, il y a cette décision qui est importante, qui est, j'allais dire, presque réjouissante pour vous, et c'est bien normal. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Quelle va être la suite, selon vous?
Bien sûr qu'on s'en est réjoui. On était même extrêmement émus de ce verdict. C'était l'aboutissement de 22 mois d'acharnement envers les autorités malaisiennes pour y parvenir. Maintenant, à ce stade, quelle est la suite à donner à, il est encore trop tôt pour se prononcer. Il faut être conscient que, bien que nous soyons persuadés que Nora ait été enlevée et qu'il s'agit donc d'un homicide, nous n'avons pas de preuves scientifiques, comme Maître Morel l'évoquait, de l'amateurisme. À cause de l'amateurisme et de certaines erreurs, nous avons perdu les empreintes. Le corps de Nora ayant été retrouvé le long d'un ruisseau, tout ADN tierce éventuel a été perdu. Et donc, rien ne nous permet de prouver à ce stade que l'homicide. Et c'est la raison du verdict ouvert, finalement, qui a été prononcé par le juge. Il est tout à fait conscient que la fugue est impossible. Mais parallèlement, nous ne pouvons pas prouver scientifiquement l'homicide. Et donc, à ce stade, le seul verdict qui s'impose, la seule conclusion logique, finalement, c'est le verdict ouvert.
Oui.
Qui sait, peut-être que demain, certaines langues se délieront. Peut-être que certains indices apparaîtront, mais à ce stade, il est encore trop tôt pour savoir quelle procédure ou quelle suite donner à cette affaire.
Bien sûr, tout à fait. Alors, on entend bien, Monsieur Kouarin, Maître Charles Morel, vous êtes l'avocat de la famille de Nora. Il faut quoi pour la relancer, cette enquête? Il faudrait quoi? Un témoignage?
Bien sûr.
Hein, c'est ça.
Bien sûr, c'est tout à fait. Là, en tout cas, ce qui est certain, parce qu'il faut peut-être dire une petite particularité procédurale. En France, pour juger un crime, il faut juger le criminel. Là, on est sur du droit anglo-saxon, c'est un verdict ouvert. Donc, on n'a pas une vérité judiciaire concernant un individu, une affaire. On a simplement la fin d'une vérité officielle et donc une nouvelle vérité qui devient accessible. Et l'idée, c'est évidemment de s'en approcher au plus près. Si des gens devaient témoigner, dire qu'ils avaient entendu, ou être des proches peut-être de personnes responsables d'un éventuel enlèvement, évidemment qu'on aurait alors là une enquête qui s'accélérerait considérablement, un procès et un jugement.
On peut imaginer que vous allez inciter peut-être dans les mois, les semaines qui viennent, les gens à parler, continuer à vous activer pour éventuellement que des témoignages jaillissent. Ça peut arriver.
Bien sûr, il faut continuer à en parler. Et puis aussi, il y a peut-être aussi des vocations de personnes qui peuvent essayer de travailler sur le sujet.
Monsieur Coirin, on arrive au bout de l'émission là, mais je voudrais quand même que vous nous disiez, si vous faites tout ça, c'est vraiment pour qu'on n'oublie pas votre fille, on peut le dire. Nora, c'est important de savoir ce qui s'est passé.
Vous savez, notre conscience nous imposait d'aller jusqu'au bout. Nous avions soif de justice et la quête de vérité était essentielle pour nous de poursuivre maintenant. Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas une heure sans que je pense à cette tragédie. On se pose la question tous les jours. Qu'est-ce que s'est-il passé? On est aussi conscient du fait que Nora a touché le monde et bouleversé des millions de gens. Et le soutien que l'on a reçu à travers les médias, les gouvernements, mais les citoyens de la planète nous ont permis de tenir et nous donnent cette énergie pour continuer cet effort.
Et Nora qui continue à toucher le monde, comme vous dites, Sébastien Coirin, merci beaucoup d'avoir été l'invité ce soir de l'heure du crime avec Maître Charles Morel, votre avocat, avec la mort de Nora, le combat d'une famille. Et on ne peut qu'espérer avoir un jour la vérité et la justice dans cette douloureuse affaire que l'on suivra, évidemment, dans l'heure du crime et plus généralement sur RTL. Merci beaucoup à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Marc Bisset était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.